olemaan. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus, le Christ, notre Sauveur, celui qui vient le jour des rameaux, celui qui vient et qui entre dans Jérusalem, celui qui vient sous les cris de joie de tous ses disciples qui connaissent le salut qu'il leur a apporté. Bonjour à vous toutes et à tous. Bienvenue ce matin dans ce temple de l'Oratoire du Louvre pour cette fête des rameaux. Vous toutes et tous qui êtes ici, bien sûr, mais aussi tous ceux qui sont au loin et qui nous regardent par le biais des réseaux sociaux, nous sommes ensemble dans la communion. Bonjour aux enfants de l'éducation biblique qui sont ici aujourd'hui avec nous et qui vont eux-mêmes écouter un enseignement aujourd'hui et se retrouver entre amis pour pouvoir jouer ensemble et apprendre ensemble. Nous avons aussi ce matin une grande joie qui se multiplie par deux puisque nous allons vivre ensemble deux baptêmes de petits-enfants qui ont déjà l'âge de se rendre compte de ce qui se passe pour eux. Et c'est toujours une joie de les voir heureux, d'être heureux dans cette maison et d'être avec nous dans un moment pareil et que nous soyons pour eux ce lieu, cette communauté qui les accueille et qui va leur donner le baptême de la part d'un autre plus grand que nous et qui les aime infiniment. C'est un garçon de 7 ans qui va recevoir le baptême et une petite fille de 2 ans et demi, je ne me trompe pas, c'est ça, 2 ans et demi. Et je souhaite la bienvenue aux amis, à la famille qui sont là avec ces enfants et qui sont là pour les accompagner. Quelles que soient vos convictions religieuses, quel que soit votre itinéraire spirituel, vous êtes ici avec nous dans la même maison fraternelle, dans la même fraternité que le Seigneur nous donne. Je vous invite à nous réunir sans plus tarder dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret qui est inséré au début des psautiers français. Vous avez toute la liturgie du culte qui est là. Voilà. Je vous invite à vous lever. Nous partageons ensemble la louange avec ce psaume. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai pour célébrer le Seigneur. C'est la porte du Seigneur c'est par la porte du Seigneur que les justes entrent. Je te célèbre car tu m'as répondu et je te dois la victoire. La pierre que les maçons ont rejetée est devenue la pierre angulaire. Cela vient du Seigneur, c'est une merveille à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait, qu'il soit notre bonheur et notre joie. Donne, Seigneur, donne la victoire. Donne, Seigneur, donne le triomphe. Béni soit celui qui entre au nom du Seigneur. Nous vous bénissons depuis la maison du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous a donné la lumière. Formez le cortège, rameaux en main, jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te célèbre, mon Dieu, et je t'exalte. Célébrez le Seigneur, car il est bon et sa fidélité est pour toujours. Et je vous invite à chanter le psaume 92, les strophes 1, 2, 3 et 4. Écoutons la volonté du Seigneur pour nous. Dans le psaume 1, il est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui relit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'eau vive, qui donne du fruit en son temps. Chantons. Remettons-nous devant le Seigneur avec ce qui fait notre fragilité, peut-être ce qui nous sépare de lui. Avec ces mots de Søren Kierkegaard, c'est dans un vase d'argile frêle que nous autres hommes portons le Très-Haut. Mais toi, ô Saint-Esprit, tu habites un homme. Tu habites bien alors dans ce qui est infiniment inférieur. Toi, Esprit de sainteté, tu habites l'impureté et la souillure. Toi, Esprit de sagesse, tu habites la sottise. Toi, Esprit de vérité, tu habites la tromperie. Et toi qui ne recherches pas les aises d'un logis désirable, qu'en vain tu chercherais. Toi qui crées et régénères et te fais toi-même ta maison, ô, habite-moi à demeure, pour qu'un jour tu finisses par te complaire à cette maison que tu t'es préparée toi-même dans les souillures, les méchancetés et les tromperies de mon cœur. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir ensemble la grâce renouvelée pour nous. Dieu nous redit aujourd'hui, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Chantons ensemble. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons maintenant entrer dans la liturgie du baptême. Et je vais maintenant accueillir les familles qui sont avec nous et avec leurs enfants. Alors, on a perdu une baptisée, mais ça devrait aller. Tu te promènes, c'est bien. Florence et Laurent, vous avez demandé que votre fils reçoive le baptême. Olivia et Nicolas, vous avez demandé que votre fille reçoive le baptême. Alors venez avec les parrains et marraines me rejoindre pour ce moment extraordinaire qui va s'accomplir devant nos yeux et qui n'est pas seulement de notre fête, mais qui est aussi et surtout du fait du Sauveur lui-même qui est avec nous en esprit dans ce moment extraordinaire. Je vais maintenant confesser la foi selon les mots qui ont été choisis pour l'occasion par les familles. Je vous invite à vous lever pour que nous confessions ensemble notre foi. Je crois en Dieu qui est créateur de toutes les choses visibles et invisibles et qui aime comme un père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme. Appelant à la foi et fondant notre espérance, je crois au Saint-Esprit qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à chanter ensemble notre joie pour cette foi renouvelée avec le spontané Hosanna, Hosanna, qui est évidemment, qui sont les paroles de cette fête des rameaux. Alors, si vous aviez été sur le chemin qui mène du Mont des Oliviers jusqu'à Jérusalem, on ne vous aurait pas entendu. Alors, je pense qu'il va falloir recommencer ça, parce que vraiment, ce jour des rameaux, il faut que nous tous, disciples du Christ, nous puissions dire, et même ceux qui sont avec nous et qui ne se sentent pas disciples du Christ, mais qui sont en communion avec nous aujourd'hui, qu'on puisse dire très haut et très fort, « Hosanna au plus haut des cieux pour le salut et la paix ». Alors David, je t'invite à recommencer, peut-être en mettant un peu moins fort pour qu'on entende un peu plus l'assemblée et qu'ils se sentent obligés de crier très fort. Voilà. Merci David.
Hosanna, Hosanna, chantons d'un cœur fidèle, le plus grand des hommes.
Voilà, et là, tout d'un coup, vous avez rempli de joie une petite fille qui s'est mise à danser avec vous. Voilà, merci beaucoup David. Je vais rappeler maintenant, si vous voulez vous asseoir, vous pouvez le faire. Je vais rappeler maintenant l'institution de ce baptême. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus qui dit ça. Allez de toutes les nations. Faites des disciples, alors pas par la force, hein. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. Chers amis, votre enfant, cette petite fille et ce grand garçon, vont être baptisés au nom du Père qui leur donne le souffle de vie. Au nom du Fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour eux et qui, dans la foi, appelle chacun à son service. Votre enfant va être baptisé au nom du Saint-Esprit qui fera naître en elle, en lui, c'est notre espérance, l'amour, la foi et l'espérance que nous portons nous-mêmes en nous. Et c'est pour cela que nous baptisons nos enfants. Il y a de l'eau ici, et cette eau est de l'eau tout à fait ordinaire, qui permet de faire toutes sortes de choses quotidiennes et qui représente la vie. De l'eau pour laver les mains d'un enfant quand il a bien joué partout. De l'eau pour faire pousser les plantes, pour que le monde soit plus beau et que le monde puisse nourrir les hommes. Et puis aussi avec cette eau, avec la parole de Dieu, cette eau devient le sacrement du baptême, eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est vrai aussi pour nos enfants, même s'ils ne le savent pas encore tout à fait. En effet, Dieu nous aime le premier. C'est lui qui a eu l'initiative de se tourner vers nous. Alors j'invite l'Assemblée à se lever pour être témoin de ce baptême, de ces baptêmes. Alors je vais commencer par la petite fille, tu veux bien, hein? Oui, c'est bien encore la galanterie, hein? Ouais. Dieu nous l'a promis, nous sommes à lui, il nous connaît chacun par notre nom. Quel prénom avez-vous choisi pour votre fille ?
Héloïse Madeleine Marguerite.
Tu sais qu'on a un prénom commun toutes les deux. Eh oui, je m'appelle Marguerite aussi, figure-toi. Alors, je vais vous inviter à amener cette petite fille Héloïse auprès du baptistère, à la porter. Voilà, et c'est le parrain qui ne la laissera pas tomber, je le sens. Voilà, alors peut-être vous tournez par ici, parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui sont avec nous et qui ne sont pas présents, mais qui ont très envie de voir Héloïse et son baptême. Voilà. Héloïse, tu veux bien te pencher en toute confiance, tu es avec ton parrain, tu crains rien, tes parents sont là. Héloïse, regarde par ici. Héloïse, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Ah, c'est un petit peu froid quand même. Hein? Héloïse, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que par lui, nous ayons tous la vie éternelle. Voilà, cette parole est pour toi, une parole de bénédiction. Alors, merci beaucoup Héloïse. On va évidemment continuer avec notre grand garçon qui est là. Et je vais donc inviter les parents de ce grand garçon à me dire quel prénom avez-vous choisi pour votre fils ?
Timothée Ambroise Attila.
Très bien. Alors, je n'ai pas de prénom commun avec toi, je suis désolée. J'aurais bien aimé quand même certains là dans le choix. Alors, je vais t'inviter à t'approcher. Et puis, Héloïse, tu vas voir, du coup, tu vas pouvoir voir, en te mettant comme ça à distance, ce qui était arrivé à toi-même. Ça va aller ? On y va ? Alors, Timothée, tu es d'accord pour recevoir le baptême ?
Oui.
Timothée, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Timothée, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. C'est pour toi, Timothée. Alors, je vais maintenant vous inviter à vous asseoir pour le moment, parce que je vais passer avec vous dans les rangs avec ces deux enfants qui viennent de recevoir le baptême et qui ont sûrement très envie de vous connaître mieux. Tu viens, Héloïse, on va se promener. Je t'avais dit qu'on irait se promener, je t'avais promis. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, voici Héloïse et Timothée. Ils sont dans cette maison, chez eux. Vous êtes leur famille spirituelle. Vous êtes ceux qui seront garants de l'accueil inconditionnel de ces enfants dans la communauté chrétienne, quel que soit leur parcours de vie. Si jamais un jour ils venaient à se séparer de l'Église, vous affirmerez qu'ils peuvent toujours y retrouver leur place. Ce sera ainsi pour eux le signe que l'amour inconditionnel de Dieu est vraiment vécu dans l'Église. Voilà les deux enfants que nous accueillons aujourd'hui et qui sont maintenant vos petits frères et sœurs dans la foi. Alors ça va, ça vous plaît comme famille les enfants ? Oui, ça va ? Bon, Timothée est tout à fait d'accord. Héloïse regarde un peu s'il n'y a pas des gens pour pouvoir jouer avec elle, parce que c'est quand même bien d'avoir des copains pour jouer dans l'Église. Voilà, alors peut-être bientôt vous serez, alors Timothée c'est déjà le cas, mais peut-être bientôt Héloïse sera sur les chaises de l'éducation biblique, et puis tous les deux vous aurez peut-être un moment où vous aurez envie de dire votre foi vous-même avec vos mots, dans cette église ou dans une autre, mais en tout cas nous serons là pour vous, et pour prier pour vous, et pour faire en sorte que vous puissiez grandir avec des amis dans l'église, voilà. Je vous invite à chanter notre joie avec le cantique 204, les strophes 1 et 2, et ce sera notre prière pour ces deux enfants. Merci les enfants. Vous pouvez aller vous asseoir si vous voulez. Oui, c'est parfait.
Voilà, alors je vais peut-être maintenant inviter les enfants de l'éducation biblique à rejoindre leur groupe d'éducation biblique, justement, pour aller partager le mini-culte que Agnès, ma consœur, Agnès Adeline Schaeffer, va à partager avec eux, qu'elle a préparé pour eux. Et donc, les monitrices vont accompagner tout le monde à la maison presbytérale où l'éveil biblique est déjà en train de travailler. Voilà, et ce matin, nous allons lire dans l'évangile de Luc. Et ce n'est pas une surprise, au chapitre 19, les versets 29 à 40. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous ?», vous lui direz « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait été dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin » et ils l'amenèrent à Jésus. Puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'annon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent « Maître, rabroue tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Je vous invite à chanter ensemble le psaume 24 dans les psautiers, les strophes 1, 2 et 5. Et je vous invite à vous lever. Seigneur, bénis-nous au moment où nous prenons la parole ici, en ce matin de fête, en ce matin où nous espérons le meilleur pour tous. Offre-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, afin que nous puissions entrevoir dans les témoignages anciens la parole que tu nous transmets, cette parole de vie. Amen. Thank you. Les disciples de Jésus acclament celui qu'ils ont choisi de suivre sur ce chemin qui descend du mont des Oliviers. Ils ont peut-être reçu le baptême, comme Timothée et Héloïse ce matin, puisqu'ils suivent Jésus avec tellement d'enthousiasme. Ils ont peut-être écouté l'enseignement de Jésus, comme les enfants de l'éducation biblique qui sont partis écouter comment l'on peut rendre compte, comprendre, critiquer les textes qui sont dans la Bible. Ils attendent peut-être un être providentiel qui les sauvera de toutes les difficultés de leur vie, toutes ces difficultés qu'ils rencontrent dans leur société, comme tous ceux qui sont dans toutes les sociétés et qui ont à décider de leur avenir, comme nous aujourd'hui. Cette scène est pleine d'espérance, pleine des espérances de chacun et qui ne sont pas toujours les mêmes. Cette scène est pleine de ce que représente Jésus pour ses disciples. Cet épisode dit des rameaux où dans Luc il n'y a pas de rameaux, si vous avez bien repéré, est souvent décrit comme un jeu de dupes dans les autres évangiles. Entre une population qui attend un nouveau roi David et Jésus qui sait déjà qu'il va à la mort et ne sera pas roi d'Israël comme David le fut. Mais chez l'évangéliste Luc, il ne s'agit pas d'une erreur. Il n'y a pas de faux-semblant, ces gens qui crient sur le chemin crient pour de bonnes raisons. C'est bien le don de la vie de Jésus pour tous les autres qui est la clé de cet épisode. Et ses disciples semblent bien savoir que c'est un règne d'un nouveau genre qui s'ouvre avec son entrée à Jérusalem. De quel règne parle-t-on alors ici ? Plusieurs indices nous permettent de le déterminer. D'abord, la scène se situe à la descente du mont des Oliviers, qui à l'époque des prophètes était le marché aux animaux pour les sacrifices. Ce n'est sans doute pas un détail. Selon l'évangéliste Luc, Jésus descend donc comme un agneau qu'on va offrir en sacrifice au temple. Et il le fait en conscience, sans contrainte particulière. Il assume son rôle terrible. Et puis cette multitude de personnes qui le suit n'est pas une foule comme dans l'évangile de Matthieu, ni beaucoup de gens comme dans l'évangile de Marc où Jésus est appelé fils de David. Cette multitude de disciples connaît l'engagement de Jésus dans la proclamation d'une loi de Moïse pour l'homme. Et donc dans l'annonce d'un Dieu pour l'homme. C'est de la multitude des disciples dont parle cet évangile, qui avait déjà fait voler en éclats les généalogies dans le récit de naissance, avec un recensement à Bethléem dont Joseph et Marie semblaient être exclus, eux qui arrivaient en surnombre à l'hôtellerie du village. L'enfant qui est né alors n'appartient à aucune lignée. Il ne sera sur aucune ligne de recensement d'aucun empereur. Il est d'une autre origine que celle qui pourrait se compter. C'est donc une multitude qui suit Jésus ce jour-là, avec des gens très différents les uns des autres, qui n'ont pas la même lignée, qui n'ont pas eu la même vie, qui n'ont pas le même pays d'origine, qui n'ont pas la même religion d'origine. Et ils sont tous là ensemble, derrière cet homme qui leur a apporté quelque chose de vital. C'est une multitude qui suit Jésus ce jour-là, et l'expression n'est pas choisie au hasard par Luc, qui pense, comme l'apôtre Paul, que le salut de Dieu est pour tous. Ceux qui sont du peuple choisi par Dieu, et ceux qui étaient jusqu'ici considérés comme des païens. Ceux qui ont comme référence les rois d'Israël, et ceux qui ne connaissent pas leur histoire. L'épisode de l'annon nous en dit encore un peu plus sur ces références bibliques choisies par l'auteur de l'évangile de Luc pour parler du règne de Jésus. Reprenant l'épisode de la transmission du trône de David à Salomon, son fils, l'évangile de Luc met en scène un nouveau roi sage. Dans le premier livre des rois, on peut lire « David leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître, faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule et faites-le descendre à Guillon. Là, le sacrificateur Tsadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompe et vous direz, vive le roi Salomon. » Le règne de Salomon est connu pour les 30 ans de paix qu'il connut, ainsi que toutes les nations qui commerçaient avec Israël en lui apportant chaque année des trésors à dos de mulet. Dans le livre de Zacharie, on peut lire aussi « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem, et les arcs de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. » Et il dominera d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc un règne de paix qui est annoncé avec l'entrée de Jésus dans Jérusalem. De cette paix annoncée par les prophètes et chantée par les anges, quant à la naissance de Jésus, fut annoncée la naissance d'un sauveur au berger qui passait dans les montagnes les veilles de la nuit. Alors on entendit du ciel « Paix dans le ciel et gloire dans les cieux très hauts ». Et Luc reprend ce verset biblique pour cette entrée dans Jérusalem. Et puis dans cette marche symbolique vers Jérusalem, il y a le jeu des vêtements des disciples, ce qu'ils jettent sur l'âne et ce qu'ils étendent à terre. Les vêtements des disciples ne sont pas à proprement parler jetés, comme les traductions le disent, sur le dos de l'âne, mais en grec, ils sont laissés comme ce dont on se débarrasse, ce dont on se déleste. Ainsi, les vêtements chargés sur l'âne sont-ils comme un poids que les disciples n'auront plus à porter, comme une charge qu'un autre transportera pour eux. Jésus emmène sur son âne le poids qui pesait sur les épaules des disciples comme un vêtement trop lourd. Est-ce le poids de la culpabilité? Est-ce le poids du péché quand ils se sentent si séparés de Dieu? Est-ce le poids de la misère d'une vie trop dure? Nous n'en savons rien, mais l'écrivain nous décrit ce transfert de charge comme une bénédiction pour les disciples. Cet anon, le Seigneur en a besoin. Ce qui veut dire que Jésus peut demander comme un roi ce dont il a besoin. Il est légitime à s'asseoir sur cet anon, il est légitime parce que les propriétaires de l'âne le donnent aux disciples. Ils sont tous ceux qui ont vu des miracles. Ils savent que Jésus demande et qu'il est légitime à le faire parce qu'il leur a apporté beaucoup. Tous sont dans l'attente d'un Messie annoncé par les prophètes. Tous sont dans l'attente d'une vie meilleure. Tous ces disciples de Jésus qui sont disciples d'un libérateur, d'un sage, d'un homme de paix, vont pouvoir crier de joie sur ce chemin pour tous les miracles qu'ils ont vus et qui pour eux indiquent que le sauveur de leur vie est enfin arrivé. Car c'est bien à cause des miracles de Jésus qu'on le loue à cette époque et qu'on le loue encore après tout. Ne fait-il pas de la vie empêchée une vie libérée? N'est-ce pas cela qui est annoncé dans les évangiles avec les miracles? Et qu'on lise ces miracles comme des faits ou comme des images symboliques de libération intérieure, ce sont bien eux, ces miracles, accompagnés des paroles de Jésus qui font sens pour dire le salut incarné dans cet homme. Pourquoi le détachez-vous? Le Seigneur en a besoin. Comme un ouvrier de la onzième heure, l'âne est délié, puis mis au service du roi de paix qui vient. N'est-ce pas une image de serviteur fidèle à Jésus que nous offre cette image de l'ânon, qu'on vient chercher et qui est choisi pour servir? Ne fit-il pas un peu partie des disciples, cet ânon qui est mis au service d'une entrée triomphale d'un roi juste, lui le plus humble? Les autres vêtements des disciples sont étalés par terre pour faire un tapis au roi qui est monté sur son ânon. Ce sont les vêtements de ceux qui l'honorent. Ils préparent à leur manière, comme Jean-Baptiste avant eux, les chemins du Seigneur. En tout cas, cette multitude qui accompagne Jésus dans l'évangile de Luc est bien celle des fidèles disciples qui croient en Jésus comme sauveur. Et ils ne se trompent pas. Tout semble donc réuni dans cette histoire pour faire de Jésus le Messie, celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui peut porter son règne, celui qu'annonce le psaume 118 cité dans ce texte, « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. » Mais dans cette foule de disciples, les pharisiens ont rejoint le cortège et ils ne veulent pas que l'on crie trop fort la joie de la justice, de la paix, de la liberté. Le mot qui est utilisé à cet effet est très significatif. Les pharisiens demandent à Jésus de rabrouer ses disciples. C'est le terme qu'on utilise dans les évangiles quand on fait reculer les esprits mauvais, ou quand Jésus crie à la tempête de se calmer. C'est un verbe qui évoque la lutte contre ce qui est dangereux. Les rabat-joie n'ont pas tort. La sagesse de Jésus et son œuvre de paix ne feront pas crier de joie tout le monde, loin s'en faut. La violence, l'iniquité, l'inégalité, les discriminations en tout genre, le refus de l'autre, le repli sur soi sont bizarrement bien plus facilement acceptés que la joie de se mettre au service d'une parole qui fait vivre. Pourtant, les disciples qui suivent Jésus sur le chemin savent ce qu'il a fait pour eux. Ils savent que son engagement pour la vie de ceux qu'il a aidés est véritablement salutaire et ils veulent s'en réjouir. Et ils n'ont pas honte de dire à quel point ils sont heureux d'être avec lui. Jésus répond aux pharisiens qui veulent calmer les ardeurs des disciples du Christ. Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Rien ne peut faire taire la vérité à propos du salut. Et nous l'oublions peut-être trop souvent. Rien ne peut éteindre la conscience de ces gens qui se sont mis à la suite de celui qu'ils considèrent aujourd'hui comme un nouveau Salomon, mais qui n'a pas cherché à régner sur eux, qui n'a pas cherché le pouvoir pour lui, qui s'est mis au service lui-même d'une cause plus grande, d'un bien commun. Le règne que Jésus annonce est sans force. C'est pour cela qu'il est dangereux. Pas pour ceux qui n'y croient pas, non, mais pour ceux qui s'y exercent et qui essaient de faire advenir la paix, ceux qui essaient de faire advenir des relations apaisées entre les hommes, ceux qui prônent l'accueil de tous sans discrimination. Ceux-là, dans toutes les sociétés, sont toujours en danger. Parce qu'en vivant dans la recherche du bien, il s'expose à la violence de ceux qui détestent le bien. Les disciples ont raison de crier ce jour-là leur joie pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la paix, pour l'amour du bien des hommes. Ils ont raison de se réjouir de cette foule bigarrée de gens tous différents mais qui vivent ensemble d'une même espérance. Ils ont raison de se réjouir de ce roi sans armes et qui, en signe d'humilité, est monté sur un ânon. loin du cynisme des accusateurs qui bientôt viendront le condamner. Les disciples proclament la venue de la paix pour les hommes. Et même si nous connaissons la fin tragique de cet homme qui sera crucifié au nom de ce qu'il a voulu défendre, ils auront eu raison de crier la joie pour le bien. Jésus n'a pas résolu tous les problèmes de son temps, loin de là. Il n'a pas guéri tous ceux qui en avaient besoin. Et dans cette foule bigarrée, il y a sans doute encore beaucoup de gens qui attendent des miracles. Il n'a pas empêché l'occupation romaine, qui à l'époque était tellement difficile à supporter. Il n'a pas empêché la corruption de tous les collecteurs d'impôts, et il a peut-être converti seulement Zachée. Il n'est pas l'homme providentiel dont on pourrait rêver quand on parle de pouvoir, sans doute. Mais il a insufflé un esprit d'amour et de solidarité là où il est passé. Et il a su refuser ce qui était inique quand les actes l'étaient réellement. Il a eu le courage d'affronter les violents, les menteurs, et ne les a pas imités. Il n'est donc pas l'homme providentiel qui règle tout à la place des autres, mais il inspire un climat de paix à ses disciples qui savent dorénavant où sont les lignes claires entre ce qui est mauvais pour l'homme et ce qui est bon pour lui. Jésus a endossé ce jour-là sa responsabilité à l'égard de tous ses frères, de toutes ses sœurs, de tous ceux qui viendront après lui. Et il sait que contre le bien qui a été fait, on ne pourra rien. Contre le salut qui a été donné, on ne pourra rien. Peut-être faudra-t-il réapprendre, nous autres, dans notre société, ici et maintenant, à crier de joie pour la paix, pour la liberté, pour la justice, pour l'amour, tant que ces joies-là nous sont encore possibles. Car vous avez vu que des temps peuvent changer rapidement et que nous sommes toujours avec l'idée que tout va de soi. Pourtant, il faudra sans doute défendre sans cesse dans notre vie, dans notre histoire, pour nos enfants, cette liberté, cette justice, cette paix et cette joie que nous pouvons partager ensemble en toute liberté. Car si nous nous taisons, un jour peut-être seules les pierres se souviendront de toutes ces belles choses. Amen.
Thank you.
Je vous invite à chanter le cantique. Excusez-moi. Le cantique 69 dans les louanges et prières, les strophes 1, 8 à 9, et nous nous levons. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Et c'est maintenant le moment des annonces avec notre présidente du Conseil, Aurore, qui va nous partager ses annonces.
Bonjour à tous au nom du Conseil presbytéral. Rebonjour Timothée. Rebonjour Héloïse. Elle est partie où, Héloïse ? Nous recherchons Héloïse. Tu es là. Quelques annonces. Semaine sainte, je ne vais pas tout annoncer. Mardi, une longue journée et belle journée proposée par toi, Béatrice, avec un culte d'intercession avec scène. Ensuite, Béatrice se met à la cuisine avec certains paroissiens pour partager le déjeuner. Donc, elle va cuisiner et partager le déjeuner ce mardi. Partage biblique ensuite. Et à 19h, une grande soirée exceptionnelle sur la figure de Paul. Vous savez, Paul, la lettre aux Corinthiens, on adore. La lettre aux Romains, c'est un peu plus dur jusqu'à ce que la grâce arrive. Donc c'est quand même important en tant que libéral d'en connaître un peu mieux la figure de Paul, qui est quand même un peu controversée. Et pour une femme, elle est encore plus difficile parfois.
Que les femmes se taisent dans les assemblées. Évidemment, ça coince un peu quand on entend ça et qu'on est pasteur. Mais bon, ce sont les lettres de Paul et il y a beaucoup de choses à en dire. Et donc, nous avons ce soir-là une belle soirée avec nos trois invités qui vont venir nous parler de façon différente, selon les perspectives qu'ils vont prendre, de cet apôtre controversé. Controversé parce que il y a eu tout un courant du christianisme qui a contesté la validité des des thèses de Paul par rapport à ce qui était écrit dans les évangiles. Et donc, il y avait un Jésus, mais pas Paul. Donc, l'idée que Paul aurait travesti un peu la marche du christianisme et que, heureusement, avec les évangiles, on avait une autre voie possible parce que Paul est vu comme un ascète, comme quelqu'un qui a prôné un ascétisme très grand. Et donc, c'est une des thèses de Jérémy Bentham, notamment. Et ce sera présenté donc ce soir-là, donc mardi 12 à 20h ici même, et ce sera retransmis pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ce soir-là sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à nous suivre, merci.
Donc mardi soir 20h ici même sur la figure de Paul. Mercredi, ce sont les jeunes qui se rencontrent. Alors, en ces temps difficiles, ils ont choisi le thème de l'humour. Donc c'est mercredi à 19h je crois au temple, là aussi il y a dîner ensuite, je ne crois pas que ce soit toi qui cuisines, non, cette fois-ci non. Mais attends-toi à ce qu'ils t'appellent Marguerite, hein, et tu leur rappelleras peut-être que tu préférais Attila ce soir-là. Voilà, donc ça c'est mercredi soir, humour avec les jeunes. Jeudi, la journée est proposée par Agnès Adeline Schaeffer, ta consoeur, qui est avec les jeunes là actuellement en train de faire un mini-culte. Pause spirituelle à l'heure du déjeuner et nous la retrouverons tous au foyer de l'âme jeudi soir pour le jeudi saint. Cette année, c'est elle qui propose la méditation. Jeudi soir au temple du foyer de l'âme, rue Wagner, à 19h. Avec une sainte scène, oui. Vendredi soir, 19h ici. Cette année, lecture de la Passion, mais cette année, donc méditation proposée par la pasteur du foyer de l'âme, Dominique Hernandez, qui vient ici, et nous avons une liturgie plus musicale, ou encore plus musicale cette année, dont tu t'es occupée, Béatrice.
Oui, alors ce sera Sarah Kim et John Kim, le frère et la sœur, qui seront là ensemble, à l'orgue et au violoncelle, nous avons ce bonheur-là aussi, et donc nous allons pouvoir entendre des choses aussi variées que Arvo Pärt, Philippe Glass, Moussorgsky, je prononce peut-être pas très bien, Litz, Bach, enfin voilà, pour accompagner cette lecture de la Passion selon Luc, qui sera lue par des catéchumènes, deux catéchumènes qui vont confesser, dont une va confesser sa foi ici même à l'Oratoire du Louvre, qui est avec nous ce matin, et puis un comédien qui nous a rejoint pour nous faire la narration de cet épisode particulièrement riche dans l'Évangile de Luc, avec des choses très particulières dans cet évangile. Donc je vous invite vraiment à venir passer ce moment d'écoute. Ce sera essentiellement un moment d'écoute, mais ce sera un moment qui vous permettra de méditer à nouveau sur ces textes que nous avons toujours le sentiment de connaître, et puis quand on les entend lus par d'autres, on découvre des choses toujours.
Donc vendredi 19h, samedi matin, vous venez tous s'il vous plaît répéter avec le cœur de l'Oratoire du Louvre à la maison presbytérale, pour les chants de Pâques, parce que dimanche on se retrouve pour Pâques, donc pour éviter qu'un pasteur nous demande de répéter à nouveau le même chant, venez samedi matin avec le cœur, s'il vous plaît. Également encore deux annonces, nous allons essayer, j'en profite puisque les parents de l'éducation biblique sont là, nous allons organiser notre assemblée générale le 15 mai, alors il nous faut encore organiser quelques petites choses, puisque ça sera une première, puisque nous le ferions un jour d'éducation biblique pour permettre aux parents quand même et aux enfants de savoir comment se passe une assemblée générale d'église. Également, nous aurons un invité ce jour-là, mais retenez la date du 15 mai. Vous avez dans vos livrets, et ça sera ma dernière annonce, une enveloppe qui s'appelle Offrande. Alors, comme j'ai beaucoup d'humour, moi j'ai eu Offrande de Noël. Alors, c'est pas très grave, vous savez que Noël est à Pâques cette année, puisqu'il fait très froid. Donc vous avez une enveloppe offrande, donc peut-être offrande tout seul, offrande de Pâques ou offrande de Noël. L'objet, c'est bien entendu une offrande, mais vous avez, je vois le regard de ma trésorière, nom et prénom dessus. Si vous remplissez cette enveloppe d'argent, c'est l'objet, en mettant votre nom et prénom et vous êtes imposable, vous pouvez mettre trois fois plus d'argent parce que l'État vous financera les deux tiers. Donc l'intérêt de cette enveloppe, outre l'offrande spécifique de Pâques, c'est vraiment aussi pour vous, pour ceux qui sont imposables, de pouvoir nous donner trois fois plus en nous indiquant le nom et le prénom. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche et je propose Héloïse. Héloïse.
Tu peux dire bon dimanche?
Vous avez compris, c'était bon dimanche. Et Timothée ?
Bon dimanche.
Merci à vous. Bon dimanche à tous.
Merci à vous. Donnez le cœur joyeux et vous avez le panier connecté pour ceux qui n'ont que la carte bleue. Merci.
Et gardez juste un tout petit peu de monnaie parce que nous avons les éclaireuses des koalas qui vendent des gâteaux à la sortie. Merci beaucoup.
Merci à David pour son accompagnement d'aujourd'hui et pour ce morceau plein d'humour pour nous. Je vous invite à vous rassembler dans la prière. Seigneur, nous avons tous en tête aujourd'hui des sujets qui sont importants pour nos vies. Nous pensons tous à notre pays et à son avenir. Bénis chacun et que nous soyons, nous qui nous disons tes disciples, capables de faire la part des choses pour être dignes de la paix, l'amour, l'accueil inconditionnel que tu nous as appris. Permets que nous soyons tous réellement tes disciples dans ce monde et que nous pensions plus à l'intérêt de nos frères et de nos sœurs qu'à nous-mêmes. Rappelle-nous, Seigneur, notre responsabilité au sein des institutions, au sein du pays, là où nous sommes, là où nous pouvons exercer quelque pouvoir que ce soit, là où nous pouvons porter une parole. Rappelle-nous que nous sommes responsables et que nous portons dans nos vies cette responsabilité particulière de porter ta parole. Nous te prions, Seigneur, évidemment, pour nos frères ukrainiens, ceux qui sont encore au combat dans leur pays et ceux qui sont arrivés chez nous ici. Qu'ils soient ukrainiens ou non, qu'ils aient fui les combats, qu'ils aient fui un pays où ils étaient nés ou bien un pays où ils étaient eux-mêmes immigrés. Toutes ces personnes qui sont arrivées ici sont maintenant sous notre responsabilité. Nous te disons notre reconnaissance pour l'élan de solidarité qui a soulevé notre pays, qui a soulevé l'Europe, qui a soulevé tant de populations qui se sont tout à coup rendues compte que le pire était tout près. Nous te prions aussi pour ceux qui ne veulent pas accueillir tout le monde, pour ceux qui ont peur de l'autre, pour ceux qui sont dans l'angoisse de ce qui est différent d'eux. Permets que nous soyons suffisamment porteurs d'espérance et que nous inspirions assez la confiance pour que d'autres puissent s'y convertir. Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui ont été baptisés ce matin. Que la petite Héloïse et le petit Timothée, dans notre communauté, trouvent leur voie. Qu'ils puissent entendre ta parole, non pas avec nos a priori, nos goûts et nos façons de déformer les choses, mais avec la sincérité de ceux qui croient en toi et en ton salut. Donne-nous, Seigneur, toujours devant nous, l'espérance de faire le meilleur pour nos enfants. Ensemble, nous nous levons et nous disons cette prière qui est la prière que le Christ a apprise à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, allez, allez et dites votre joie pour la paix, pour la liberté, pour la justice. Là où toutes ces choses existent, réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse avec le Christ et permettez que cette joie soit contagieuse dans le monde, pour qu'elle puisse repousser toutes les violences, tous les maux qui touchent les hommes, tout ce qui fait du mal à nos sociétés. Soyez porteurs d'espérance dans ce monde. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, nous fait grâce et nous bénit. Amen. Et nous chantons ensemble, à la demande d'une des familles des baptisés, le 150 dans les louanges et prières. À toi la gloire.
Descendu, il roule la pierre.